follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck. That day, I cut my throat.
Comme toutes les semaines, on va parler cinéma, on va parler bande dessinée, on va parler de séries télé, de jeux vidéo, de musique, de tout ce qu'on aime. Bande Geek Mafia, votre émission Info Culture, tous les mercredis à 19h sur Radio G.
La radio qui fait le point. 101.5 FM. J'ai dit quoi? 101.5?
Pablo, depuis Casablanca au Maroc. Un grand merci à l'équipe, à l'excellente équipe de la Bande Geek Mafia et à Radio G 101.5 pour accueillir cette chronique philo, ces petits contes. Merci à vous.
Et des rivières de miel, des fruits d'or poussés sur les arbres, la vigne s'enlaçait discrètement sur des colonnes de marbre où nichaient des oiseaux de toute espèce dans un balai sans éternel. C'était une pièce mise en scène par un maître parfait. Et dans ce tableau, l'homme fut élevé. On racontait que si des peines fut des craintes de ce monde établi, l'humain devait être le rubis qu'il avait sorti. Peut-être à sa première heure, lorsqu'il n'avait pas peur des choses qui meurent, le bonheur était une somme de choses simples d'une vie dans un état appelé harmonie. L'homme prospérait, le monde en
périssez. Dans cette terre de paix, le roi ça peut les promettre.
Hey guys, en direct de Casablanca au Maroc, je vais vous raconter ici une série mythique scénarisée par Platon dans un de ses dialogues intitulé Protagoras, un récit qui interroge la nature humaine, sa relation à la nature en général et au vivant, et sa capacité à créer de la culture. Le mythe de Prométhée. Saison 1, la création. Épisode 1, un divin concept. C'était le temps où les dieux existaient déjà, mais où les races mortelles n'existaient pas encore. Avant le règne des Olympiens, Chaos avait longtemps régné, puis avait engendré la nuit, puis la terre, Gaïa. S'étaient succédé des races de géants et de titans, culminant avec le terrible règne de Cronos. Depuis la prise de pouvoir des Olympiens et de leur leader suprême, Zeus, les titans devaient obéissance à ces derniers. Dans l'éternité, le temps semble s'étirer à l'infini. Les événements semblent se répéter de façon cyclique, comme dans un éternel retour. Les Olympiens vivent leur vie sous la gouvernance de Zeus. Mais les dieux aussi se lassent. Les jeunes, les enfants de Zeus, commencent à se plaindre. Ils sont blasés, ils s'ennuient ferme, ils se réunissent et discutent entre eux. Apollon propose alors de belles histoires qui divertissent et qui se suivent par étapes, qui se découpent en saisons et en épisodes par exemple. Oh oui, avec des intrigues amoureuses, dit Aphrodite. Avec des batailles et des combats glorieux, dit Arès. Ok, mais des histoires bien écrites et où on apprend des choses surprenantes, dit Athéna. Oui, mais comment? Qui va procurer un tel divertissement? C'est là qu'intervint Dionysos. Et si nous inventions des espèces nouvelles? Non pas immortelles comme nous, mais mortelles, soumises au temps et au hasard, et qui tantôt nous feraient rire, tantôt nous feraient pleurer. Ils soumirent le projet à leurs aînés qui l'approuvèrent. Épisode 2, les titans. Quand vint le moment marqué par le destin pour la naissance de celles-ci, les races mortelles, voici que les dieux les façonnent à l'intérieur de la terre avec un mélange de terre et de feu et de toutes les substances qui se peuvent combiner avec le feu et la terre. Hermès a l'idée de confier la finalisation des espèces vivantes à un titan célèbre pour sa sagesse et intelligence, à Prométhée le prévoyant. Au moment de les produire à la lumière, les dieux ordonnent à Prométhée de distribuer convenablement entre elles toutes les qualités dont elles avaient à être pourvues. Zeus vient personnellement voir le titan.
Je te confie toutes nos créatures. Ce sont encore des prototypes expérimentaux. Voici dans ce magasin toutes les qualités disponibles. Distribue-les équitablement à toutes ces espèces mortelles. À toi de les finaliser. À toi de jouer. À toi de jouer.
Compte sur moi, patron, répond alors Prométhée. Alors que Prométhée réfléchissait à la juste distribution des qualités naturelles, intervient Épiméthée, dit l'étourdi, son petit frère.
Wesh, frère, ça roule ou quoi? Eh, il est parti, le big boss. Vas-y, gros, laisse-moi faire la distribution moi-même, s'il te plaît. Tout le monde me fait une réputation de bouffon ici, là. Laisse-moi une chance de prouver ma valeur. Toi, tu superviseras le travail. Quand j'aurai fini, tu viendras contrôler le résultat. Qu'est-ce t'en dis?
Malgré la responsabilité qui lui incombait, Prométhée, qui adorait son petit frère, accepta. Épisode 3, Harmonie universelle. Dans cette distribution, Épiméthée donne aux uns la force sans la vitesse. Au plus faible, il attribue le privilège de la rapidité.
À certains, il accorde des armes. Pour ceux dont la nature est désarmée, il invente quelque autre qualité qui puisse assurer leur salut. À ceux qu'il revêt de petitesse, il attribue la fuite ailée ou l'habitation souterraine. Ceux qu'il grandit en taille, il les sauve par là même. Bref, entre toutes les qualités, il maintient un équilibre. En ses diverses inventions, il se préoccupait d'empêcher aucune race de disparaître. Prométhée observait, admiratif, le travail de son frère. Après qu'il les eut prémunis suffisamment contre les destructions réciproques, il s'occupa de les défendre contre les intempéries qui viennent de Zeus. Le revêtant de poils touffus et de peau épaisse, abri contre le froid, abri aussi contre la chaleur. Et en outre, quand ils iraient dormir, couverture naturelle et propre à chacun. Il chaussa les uns de sabots, les autres de cuir massif et vide de sang. Ensuite, il s'occupa de procurer à chacun une nourriture distincte. Aux uns les herbes de la terre, aux autres les fruits des arbres, aux autres leurs racines. À quelques-uns, il attribua pour aliment la chair des autres. À cela, il donna une postérité peu nombreuse. Leurs victimes eurent en partage la fécondité, salut de leur espèce. Épisode 4, finale de la saison 1, erreur de la nature. Or, Épiméthée, dont la sagesse était imparfaite, avait déjà dépensé, sans y prendre garde, toutes les facultés en faveur des animaux. Et il lui restait encore à pourvoir l'espèce humaine pour laquelle, faute d'équipement, il ne savait que faire. Dans cet embarras, survient Prométhée pour inspecter le travail. Celui-ci voit toutes les autres races harmonieusement équipées et l'homme nu, sans chaussures, sans couverture, sans armes. Il a beau adorer son petit frère, ce dernier les a mis dans l'embarras. On est à la veille du jour marqué par Zeus pour l'inspection générale. L'espèce humaine est dépourvue de toute qualité, démunie face aux autres. Elle ne sera pas viable à l'extérieur. Que faire ? Et le jour marqué par le destin était venu, où il fallait que l'homme sortît de la terre pour paraître à la lumière. Fin de la saison 1.
continuons notre voyage cérébral.
Saison 2, l'humanité. Épisode 1, voleur de feu. Prométhée, devant cette difficulté, ne sachant quel moyen de salut trouver pour l'homme, se décide à dérober l'habileté artiste d'Héphaïstos, maître des volcans et des forges, et d'Athéna, maîtresse de sagesse et de défense stratégique. Et en même temps, le feu. Car sans le feu, il était impossible que cette habileté fût acquise par personne ou rendît aucun service. Il s'introduit donc de nuit dans une caverne de l'île de Sicile, où il sait qu'Athéna et Héphaïstos se rencontrent pour forger armes et boucliers de métal. Puis, cela fait, il en fit présent à l'homme. Il voit la créature, cet avorton délaissé par son frère, et lui dit « Écoute-moi bien attentivement, mon ami. Tel que tu es, tu n'as aucune chance de survie à l'extérieur. Voici donc pour toi le feu et l'intelligence pratique. Je les ai volés aux dieux pour toi, mais sans le mode d'emploi, je ne peux pas te les expliquer. À toi de te débrouiller. Fais-en bon usage, mon frère. Bon courage. » C'est ainsi que l'homme fut mis en possession des arts utiles à la vie. Mais la politique lui échappa. Celle-ci, en effet, était auprès de Zeus. Or, Prométhée n'avait plus le temps de pénétrer dans l'acropole qui est la demeure de Zeus. En outre, il y avait aux portes de Zeus des sentinelles redoutables. C'est ainsi que l'homme se trouve à voir en sa possession toutes les ressources nécessaires à la vie et que Prométhée, par la suite, fut, dit-on, accusé de vol. Épisode 2. Les inventions culturelles. Parce que l'homme participait au lot divin, d'abord, il fut le seul des animaux à honorer les dieux. Il se mit à construire des autels et des images divines. Ensuite, il eut l'art d'émettre des sons et des mots articulés. La faculté de langage et l'art de la parole se développèrent chez l'humain. Le feu cuisait les aliments, éclairait le foyer. Il pouvait durcir les pointes des flèches et des lances pour la chasse, aider à l'amélioration de techniques diverses et repousser les ténèbres effrayantes dans la nuit. La nuit venue, les familles se réunissaient autour du feu pour évoquer la journée, ses réussites et ses problèmes, rendre la justice parfois. Et plus tard, bien plus tard, une fois libéré des préoccupations du jour, dans sa douce lumière et sa chaleur, certains se mettaient à chanter, d'autres à raconter les légendes du passé, l'origine de toute chose, ou imaginer ce que serait le futur. Outre le langage, l'homme inventa les habitations, les vêtements, les chaussures, les couvertures, les aliments qui naissent de la terre. Épisode 3, la menace animale. Mais les humains, ainsi pourvus, vécurent d'abord dispersés et nomades, et aucune ville n'existait. Aussi étaient-ils détruits par les animaux, toujours et partout, plus nombreux et plus forts qu'eux. Et leur industrie suffisante pour les nourrir demeurait impuissante pour la guerre contre les animaux, car ils ne possédaient pas encore l'art politique, dont l'art de la guerre est une partie. Ils cherchaient donc à se rassembler, faute de posséder l'art politique, mais n'y parvenant pas, ne trouvant pas d'accord entre eux, de telle sorte qu'ils recommençaient à se disperser et à périr. L'espèce humaine se voyait donc menacée d'extinction précoce. Épisode 4, finale de la saison 2, la politique. Zeus, alors inquiet pour notre espèce menacée de disparaître, décide de donner aux hommes la politique qui leur manque, et ainsi de parachever cette créature qui, malgré ses défauts, lui plaît plutôt bien. Il envoie Hermès porter aux hommes la pudeur et la justice, afin qu'il y eût des liens créateurs d'amitié et de l'harmonie dans les cités. Hermès donc demande à Zeus de quelle manière il doit donner aux hommes la pudeur et la justice. Dois-je les répartir comme les autres arts? Ceux qui sont répartis de la manière suivante: un seul médecin suffit à beaucoup de profanes, et il en est de même des autres artisans. Dois-je établir ainsi la justice et la pudeur dans la race humaine, ou les répartir entre tous?
Entre tous, dit Zeus, et que chacun en ait sa part. Car les villes ne pourraient subsister si quelques-uns seulement n'étaient pourvus, comme il arrive pour les autres arts. En outre, tu établiras cette loi en mon nom, que tout homme incapable de participer à la pudeur et à la justice doit être mis à mort comme un fléau,
Ainsi parlait Zeus, envieux patriarche. Et c'est ainsi qu'apparurent les espèces vivantes, dont l'espèce humaine. Qu'est-ce que la nature humaine? Et quelle est l'énigmatique frontière qui sépare l'animal non humain de l'animal humain? Est-ce la culture qui fait de nous des êtres à part? Et sommes-nous tellement séparés de la nature que nous puissions la violenter et vouloir la dominer? N'avons-nous pas fini par nous prendre nous-mêmes pour des dieux? Fin de la saison 2 et de la série Prométhée.
Oh, I'm on fire. like someone took a knife, baby, edgy and dull, and cut a six-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head, only you can cool my desire. Ooh, I'm on fire.
FM.
And you're my friend, so tonight you, I will find a to pay for you to don't forget me. I pay, I remember you say, sometimes life stay I can forget her this day.
Et c'est en français ou en anglais?
C'est en anglais.
Et tu sais parler l'anglais?
Oui.
C'est génial. Tu voudrais pas être chanteuse quand tu seras grande?
Non, je voudrais être une star.
Comme qui, par exemple?
Bah, comme les Wings.
Comme les Wings? Bah, évidemment.
Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Radio G dans l'émission Bangeek Mafia. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle chronique littéraire. Ce soir, je vous propose quelques nouveautés pour les jeunes lecteurs, mais aussi les moins jeunes, car il n'y a pas d'âge pour lire et apprécier de la littérature jeunesse. On commence tout d'abord par un roman en lien avec l'actualité de nos jeunes lycéens qui reçoivent actuellement leur première réponse dans le fameux Parcoursup. Il s'agit du nouveau livre de Marine Carteron, à qui l'on doit deux trilogies qui ont remporté un vif succès dans les librairies, Les Autos d'Affaires et Génération K. Cette année, Marine Carteron publie aux éditions Casterman Les Désorientés, qui s'adresse aux jeunes dès 13 ans. L'histoire. Louise s'efface régulièrement. Bonne élève, enfant sage, pas de vagues. Depuis des années au lycée, même son prénom s'est effacé. On la nomme Greta. Elle se laisse porter par les injonctions de sa meilleure amie Manon, qui est tout son contraire. Égocentrique, présente à l'excès, parlant sans discontinuer, osant tout. Et chez elle, elle ploie sous les injonctions de sa mère. Mais quand arrive le moment de faire un choix pour elle-même, la voici face à l'inconnu. Ce choix, c'est celui de valider ou non les options de Parcoursup, de conserver ou non son vœu principal pour lequel elle figure sur liste d'attente. D'ailleurs, ses choix sont-ils vraiment les siens, dans la mesure où, là encore, elle s'est laissée porter par les conseils de ses profs et de sa mère? Et si finalement ce qu'elle voulait, c'était de ne pas choisir et rejeter ses vœux faits à sa place? Et si son choix, c'était celui de la liberté? Mais la liberté de faire quoi? C'est enivrant, la liberté, et en même temps vertigineux. Louise sait très bien qu'elle ne peut pas se complaindre dans cette absence de choix indéfiniment, mais elle a besoin de ce temps en suspens pour savoir qui elle est. Donc bien sûr, le choix de liste peut paraître irréfléchi, mais au fond, ce qui apparaît, c'est la critique d'un système, celui de Parcoursup, qui laisse certains de côté et crée une pression énorme sur les élèves et les parents. Est aussi au cœur du livre, cette année de terminale, celle du bac, bien souvent vue comme charnière. Alors qu'elle n'augure pas de ce qui sera la vie future des élèves, beaucoup ont l'impression de jouer tout leur avenir. C'est cette pression, cette injonction à décider tout de suite que rejette le personnage. Ce roman est enfin une invitation à se demander vraiment qui l'on est, ce que l'on veut vraiment être, pour ne pas se construire uniquement à travers le regard des autres.
C'est pas la peine d'imaginer, faut rien gâcher, ne rien lâcher, fais comme moi, n'y pense pas, mais fais le bon choix. N'hésite pas à tout laisser, abandonner et sans tricher, fais les 100 pas, si t'y crois pas, mais fais le bon choix.
tout doucement s'en mêler, pas à pas se dévoiler, et ne jamais s'arrêter. A fait le bon choix, tout doucement se parler, pas de cesse de s'écouter, car le temps nous est vanté.
Je poursuis avec le roman J'ai tué un homme de Charlotte Héril, publié aux éditions Actes Sud Junior et qui peut être lu dès 14 ans. Il s'agit d'un roman, d'un récit à plusieurs voix, celle d'Arthur, un ado de 14 ans, et de Germaine Berton, une militante anarchiste du 19e siècle, ainsi que plusieurs autres personnages dans l'entourage d'Arthur. Quel lien entre cet adolescent et Germaine Berton? Que fait Arthur dans cette chambre d'hôpital? Il est en réalité en proie à un délire dans lequel il se prend pour une femme, Germaine Berton, alors que celle-ci vient de commettre un assassinat. Aussitôt, c'est un raz-de-marée pour son entourage. Que lui arrive-t-il? Cet état est-il passager? S'en sortira-t-il? Bon, évoquer la maladie d'un enfant ou d'un adolescent n'est jamais évident. Cela l'est d'autant moins lorsque la maladie en question est vue par beaucoup comme un tabou. À travers ce parallèle entre le personnage historique, objet du délire, et la personne qui le vit, l'auteur amène l'histoire à la façon d'une enquête. On pourrait croire en premier lieu à un huis clos historique qui fait suite à l'arrestation de Germaine Berton. Et puis, nous voici dans le temps présent, auprès d'une mère perdue, dévastée, à laquelle on demande de signer un document autorisant l'internement de son fils en hôpital psychiatrique. Ce récit à plusieurs voix permet à l'auteur de balayer une large palette de réactions face à l'annonce de l'internement. L'auteur fait aussi, ça et là, un zoom sur les soignants, sur la difficulté de leur métier au quotidien, leur rapport aux patients et aux familles. Si le thème choisi n'est pas des plus gais, il a le mérite de traiter de façon originale et forte d'un sujet souvent tu.
Elle est très jolie, mais je préfère quand tu chantes en anglais. T'as un peu triste, je trouve, non?
C'est-à-dire?
Ben, elle n'est pas très gaie.
Mais t'as pas compris.
Pourquoi c'est une chanson triste?
Ben parce que tu es malade et que...
Mais elle n'est pas malade.
Mais...
Tu dois pas... Tu sais bien qu'elle n'est pas malade.
Elle répète toute sa chanson.
Ben, tu sais que c'est les autres qui pensent qu'elle est malade. Oui. Et pourquoi que les autres ils pensent qu'elle est malade? Parce qu'elle est comme elle est.
Ben oui.
Et c'est pas normal pour les autres, pour les gens. Ben, tu sais bien que c'est malade.
Oui.
J'ai tout tenté. À leur guise de me déguiser, j'ai tout écouté. Sur le comment je devrais, même ma voix. Trémolo, faut-il ou faut-il pas? Même les émois. Me laisser aller, je n'y vais pas. Mes mauvaises nouvelles, la voilà ma maladie. En effet, comme l'on est, c'est maman qui me l'a dit. Mauvaise nouvelle, la voilà ma maladie. En effet, comme l'on est, elle l'a dit. Malade! Mais je pense que ce sont tous les fous.
J'ai découvert Charlotte Héril avec son roman sur ces filles élevées comme des fils dans des familles afghanes qui n'en ont pas et qui, à la puberté, doivent redevenir des jeunes femmes. Il s'agit du roman Bâche à poche, sorti en 2013, qui a été récompensé par plusieurs prix en France et à l'étranger et qui avait été un vrai coup de cœur pour moi. Je vous invite donc vivement à découvrir cet auteur. Pour finir, je vous propose deux titres qui questionnent notre rapport à notre planète Terre. Tout d'abord, l'anthologie 10 façons d'assassiner notre planète. Cette anthologie regroupe 10 nouvelles de science-fiction présentées par Alain Grousset, critique et auteur français. Ces textes mettent en évidence les inquiétudes des auteurs de science-fiction, passés et présents, quant à l'avenir de l'humanité. On y retrouve les risques nucléaires, la robotisation, les nanotechnologies, les changements climatiques, tous les thèmes où l'impact de l'activité humaine est avéré et pour lesquels des garde-fous sont nécessaires, sans quoi la nature risque bien de se rebeller. On y retrouve des auteurs contemporains reconnus comme Pierre Bordage ou certains pères fondateurs de la science-fiction littéraire comme Philippe K. Dick, ce qui nous donne dans cet ouvrage un panorama très large du genre. Chaque nouvelle, se déroulant dans un avenir plus ou moins proche, nous ramène aux pratiques risquées de notre époque, où l'homme tout-puissant cherche à dominer la nature, quel qu'en soit le prix. C'est un bon point de départ pour découvrir le genre de la littérature d'anticipation et pour lancer un message quant au nécessaire respect de notre belle planète. Et pour finir, je vous propose de terminer avec le roman « Et le désert disparaîtra » de Marie Pavlenko. La plume de cet auteur nous transporte dans un monde où la vie a presque entièrement disparu de la surface de la Terre et où les arbres servent de monnaie d'échange. Au sein de sa tribu nomade, la jeune Sama va faire éclater ce modèle de société mortifère créé par les hommes et ainsi conquérir sa liberté. Il s'agit d'une belle fable écologique qui saura conquérir, on l'espère, le cœur des adolescents. C'est un livre aussi qui est en accord avec lui-même puisque l'encre est végétale, la couverture n'est pas plastifiée et le papier est issu de bois destiné à être brûlé.
Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes, poison dans les fontaines, dans nos campagnes. De cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau, reste notre idéal, faire les beaux. De l'air en bas, remplir la balance. Quelques pétrodollars contre l'existence. De l'équateur au pôle, ce poids sur nos épaules. De squatteurs éphémères, maintenant c'est plus trop. Puisqu'il faut changer les choses.
Oh, ça, citoyen.
Il est grand temps qu'on propose.
Je rappelle donc les titres présentés ce soir. On a Les Désorientés de Marine Carteron aux éditions Casterman. J'ai tué un homme de Charlotte Eril aux éditions Actes Sud Junior. 10 façons de tuer notre planète, qui sont 10 nouvelles réunies et présentées par Alain Grousset aux éditions Flammarion. Et dans la même maison d'édition, Le désert disparaîtra de Marie Pavlenko. Vous êtes bien dans Bang Geek Mafia, www.radio-g.fr ou 101.5, la radio qui fait le point.
Remember, Sally, when I promised to kill you last?
That's what made you... You did!
Bande Geek Mafia, votre émission Infoculture, tous les mercredis à 19h sur Radio G.
Radio G, 101.5 FM.
Next to your fire. Stand next to your fire.
Radio G. www.radio-g.fr. Bonjour à tous, c'est Héloïse et aujourd'hui on va parler jeux vidéo. Rassurez-vous, on ne va pas reparler de mon obsession pour Animal Crossing et mes 250 heures de jeu, non non. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux jeux d'une dizaine d'heures qui m'ont totalement transporté et c'est peu dire. Maintenant que nous sommes déconfinés et de retour au boulot pour la plupart d'entre nous, il va bien falloir réussir à se détendre un peu. C'est pourquoi je vous invite à jouer à ces jeux pour être à coup sûr transporté dans un autre univers, que ce soit visuellement ou auditivement. Le premier jeu dont je vais vous parler, c'est Gris. Gris, c'est un jeu vidéo indépendant de plateforme et d'énigmes développé par Nomada Studio, qui est un studio espagnol dont Gris est le premier jeu. Et quel jeu ? La mécanique de jeu est plutôt simple, c'est un jeu vidéo de plateforme dans lequel on doit contrôler le personnage d'une jeune fille vêtue d'une longue cape qui se réveille et qui doit faire face à une longue quête pour retrouver sa voix ainsi que ses couleurs en résolvant de petites énigmes à travers un monde en 2D. Pour moi, l'élément principal du jeu, ce sont les choix artistiques. Que ce soit pour le design qui invite à la contemplation ou le choix de la musique, ce jeu finissable en quelques heures ne vous laissera pas indifférent et vous poussera à la réflexion. Chacun peut y voir ce qu'il veut concernant l'histoire de la jeune fille, et pour ma part, j'y vois une métaphore de la dépression avec le fait de perdre sa voix et avec ses statues de femmes cassées qui finissent par se reconstruire. Comme d'habitude, c'est une chronique garantie sans spoil, mais je serai ravie d'échanger avec vous si vous avez joué à ce jeu qui m'a bouleversée de par sa poésie et sa douceur. Gris est disponible sur PC, PS4, Nintendo Switch et depuis le 2 avril sur téléphone portable iOS et Android. Le deuxième jeu dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Abzu. Abzu, c'est un jeu d'exploration développé par Giant Squid. C'est le petit frère d'un titre bien connu de certains joueurs, le jeu Journey, basé sur le même principe mais se déroulant dans un désert. Dans Abzu, le joueur incarne un plongeur qui sera amené à explorer les profondeurs des océans. En effet, il devra découvrir des secrets et résoudre divers puzzles et énigmes afin d'assurer sa progression dans le jeu. Au cours de son aventure, on sera également amené à interagir avec différentes espèces d'animaux, car comme dans Gris, pas de dialogue dans ce jeu. C'est un véritable appel à la contemplation encore une fois et à la poésie, puisqu'il y a dans chaque niveau une statue permettant aux plongeurs de se poser et d'admirer la faune et la flore sous-marine à volonté. L'immersion dans les fonds marins est totale et je vous invite à prendre place pour une escapade paisible dans les profondeurs. Abzu est disponible sur PC, PS4, Xbox et Nintendo Switch. Laissez-vous transporter par ces deux jeux, faisant la part belle à la contemplation et à la beauté. En attendant, c'est tout pour moi. J'espère que cette chronique vous a plu et je vous dis à la prochaine dans Bandic Mafia sur Radio G. 101.5, la radio qui fait le point.
Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire. Fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild.
flames went higher, and it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher, and it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire. And it burns, 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 the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle chronique, une chronique un petit peu particulière car cette fois-ci je ne vais pas vous parler comme d'habitude de bande dessinée mais de séries télévisées. Alors la série dont je vais vous parler est une série qui va nous amener dans les années 40, d'où ce petit fond de musical un petit peu sympathique. Alors cette série c'est The Plot Against America, une mini-série de 6 épisodes réalisée par la chaîne HBO avec un scénario de David Simon et de Ed Burns, les créateurs entre autres de la série The Wire ou Génération Kill. Cette série nous propose une adaptation fidèle d'une uchronie qui a été rédigée en 2004 par Philippe Roth. Alors, voici le synopsis. 1940, alors que la guerre fait rage en Europe, les USA se préparent à élire leur nouveau président. La guerre et la non-intervention américaine est au cœur de ces élections qui voient s'opposer Franklin Roosevelt et le héros populaire américain Charles Lindbergh. Lindbergh met en avant une politique isolationniste et non-interventionniste, mais aussi très antisémite. Fort de sa célébrité, de son exploit aérien des années 30, à savoir la traversée de l'Atlantique, il réussit à obtenir la victoire, engageant ainsi les USA dans une politique de non-intervention dans le conflit européen, mais aussi dans la mise en place d'une politique antisémite envers les communautés juives américaines et, on peut aller plus loin, dans une politique de collaboration avec l'Allemagne nazie. Tous ces événements nous sont racontés par l'intermédiaire de la famille Levin, dont la fille va être touchée par cette politique menée par le gouvernement de Lindbergh. Les deux parents, Elizabeth Bess Levin et Herman Levin, sont partagés sur le comportement adopté, fuir ou rester. La tante, Evelyn Finkel, et son mari, le rabbin Lionel Bergerstolf, eux, n'ont aucun remords et se jettent pleinement et entièrement dans la collaboration avec le gouvernement de Lindbergh, en espérant pouvoir s'en tirer le mieux possible. À côté de ça, nous avons Alvin Levin, le neveu orphelin de Bess et Herman, qui lui flirte entre le banditisme et la volonté d'agir contre le nazisme. Et enfin, les deux enfants de la famille, Sandy, le plus âgé, qui lui idolâtre Lindbergh et qui adore sa tante, et Philippe, le plus jeune, qui lui voit et entend beaucoup de choses sans réellement comprendre tous les enjeux de ce que sa famille, de ce que vit sa famille. Et finalement, il ne comprend qu'une seule chose, c'est qu'elle se déchire. Donc voilà pour le synopsis. L'adaptation de ce roman de Philippe Roth est très fidèle. Il nous plonge dans une Amérique malade du fascisme et de l'antisémitisme. L'atmosphère de cette série est lourde et on est très mal à l'aise devant les décisions que prennent les membres de la famille Levin. Des choix difficiles qui nous obligent à nous questionner et nous qu'aurions-nous fait à leur place ? Vaste question débat, surtout lorsque l'on connaît l'histoire ou du moins la fin de cette vie. Ce qui au premier abord peut rebuter le spectateur dans cette série, c'est une certaine lenteur, mais qui au fond est nécessaire pour comprendre à la fois la psychologie de chaque personnage, mais aussi le glissement inéluctable de cette Amérique de 1940 vers une Amérique que l'on ne connaît pas, une Amérique qui nous montre surtout la vulnérabilité et la fragilité de la démocratie. Les personnages sont très bien desservis par un casting qui rend attachant les personnages de cette série. Et enfin, la fin, eh bien, laisse présager la possibilité d'une saison 2, mais HBO, à l'heure actuelle, n'a toujours pas encore fait l'annonce d'une éventuelle suite. Donc, une série à découvrir, à regarder et pour passer du bon temps. Je vous dis à bientôt et puis restez fidèles sur Bang Geek Mafia sur Radio G 101.5, la radio qui fait le point.
Attends, tu vas voir, ça passe à la radio là!
Aubrey Hill Clayton on a wet deck. That day, I cut my throat.
Ennemis, je n'ai aucun nouvel ami. Un sourire jaune Ferrari. Et si je meurs, c'est la vie. Je ne serai qu'un cercueil de plus pour le cimetière local. Je ne serai qu'un dossier en moins pour l'assistante sociale. Au paradis, y a plus de place. Il en reste un enfer. Heureusement, mes essuie-glaces nettoient les larmes du ciel. Plus rien ne peut m'émouvoir. Plus rien ne peut me décevoir. Néro disent que j'ai changé. Bien sûr que j'ai changé. Tout baiser c'est le plan A. Tout baiser c'est le plan B. J'ai quitté le Ndjeka pour retrouver la zone. Quitté le Ndjeka pour retrouver le sommeil. Quitté le Ndjeka. Quitté le Ndjeka. Quitté le Ndjeka. Quitté le Ndjeka. J'ai quitté le Ndjeka pour retrouver la zone. Quitté le Ndjeka. Quitter le Ndjeka, quitter le Ndjeka, quitter le Ndjeka, quitter le Ndjeka. Aucun migrant ne pourra nous ken, aucun migrant ne pourra. Jusqu'à mes boutiques, mes poches sont pleines. Je suis dans le quartier depuis toujours, je sais que les murs ont des oreilles.
Hey, t'as droit, ma colle. Ah oui.
Mafia, votre émission Info Culture, tous les mercredis à 19h sur Radio G.
Radio G, 101.5.
Radio G, 101.5 FM.
101.5 FM.